C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Il a composé des personnages à la tonne. Pensons ici à la série web humoristique sur Tout.tv, L'Éloge. Pensons au rôle désopilant ou minutieusement travaillé au théâtre. Et de même, des rôles dans la cour d'école des jeunes à Vrac Télé. Patrice Cocro, son nom, on le dit à gorge déployée. C'est ce rire provoqué, cette passion du jeu, qui a permis une introspection en profondeur. C'est à l'École nationale de théâtre du Canada qu'il a compris deux choses déterminantes dans sa vie, qu'il devrait vivre avec l'anxiété et qu'il devrait être comédien. On plonge avec Patrice Cocro, celui qui s'est recomposé une santé pour notre plus grand plaisir.
Mesdames, messieurs, ça fait grand plaisir de le recevoir effectivement dans nos studios. Il est en forme, il sort de pièces de théâtre, les yeux tout brillants. Et bonjour Patrice. Je vous voyais réagir sur le passage de santé et d'anxiété. Il y avait comme une petite réaction. Qu'est-ce que ça vous faisait d'entendre ça dans la présentation?
Eh bien, mon Dieu, ça me fait sourire dans la mesure où maintenant je m'en suis libéré. Alors, je suis très, très heureux de ça. Je peux avoir le trac, mais l'anxiété est derrière moi. Mm-hmm. Vraiment.
Mm-hmm. Ça a pris combien de temps?
Des années, mon Dieu. Au moins, minimum 10 ans pour arriver à retrouver un certain équilibre, et maintenant j'ai intégré cet équilibre. Cela dit, je ne me suis pas facilité la tâche dans la mesure où j'ai décidé de faire le chemin par moi-même, mais c'est une décision éclairée que j'ai prise parce que je voulais me mesurer à ces contradictions-là et mettre en mots et en images, traduire autrement dit ce mal-là avec mes propres mots et images pour m'en libérer.
32 ans de carrière, oui. C'est énorme. Oui. Comment on se pose la question, comment on fait pour passer au travers en sachant qu'il y a un trac, mais c'est pas vraiment le trac du comédien. C'est ce non. que vous avez dit, c'est cette espèce de stress intérieur qui chamboule notre vie.
Oui, moi c'était la difficulté au niveau existentiel essentiellement et j'étais... Quand j'ai fumé un joint en 1983, que mon monde s'est effondré parce que je suis tombé dans une forme de psychose, eh bien, j'étais en mille morceaux et toutes mes références initiales se sont effondrées. Et donc, j'ai entrepris de rassembler les morceaux, de me reconstruire. Et donc, c'était littéralement faire face au sens de l'existence et trouver un sens à tout ça. Ça a été très, très long, mais j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé, comme je peux beaucoup parler, et j'ai beaucoup joué, évidemment, donc ça m'a aidé à faire face à tout ça.
Alors, en 83, c'est le moment déterminant, finalement, oui. Où il y a comme une overdose. Et,
un effondrement.
Un effondrement total. Oui. Est-ce que c'est le corps en premier et la tête qui suit, les deux en même temps? Comment ça se passe?
C'était la tête, c'était tout mon être qui a basculé. C'est vraiment une bascule, une chute. C'est la chute. Mm. Et là, tout... Et d'ailleurs, c'est un thème que je porte, la chute. Et je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Je commençais mon cours à l'École nationale de théâtre. Je me disais, il faut absolument... C'est arrivé un vendredi, ça. Et j'ai passé le week-end à essayer de retomber sur mes pattes en me disant, mais il faut que j'ai l'air normal, craignant d'être mis à la porte, ce que je ne voulais pas, parce que c'était mon rêve d'être comédien.
D'être
donc,
comédien,
je voulais pas vivre ce sabotage-là.
Et Dieu sait que c'est compliqué quand on est dans les écoles, hein, parce
oui.
qu'on est toujours oui. pas trop loin de la porte.
Absolument, j'avais toujours cette épée de Damoclès, même si ça allait bien, et je craignais donc d'être mis à la porte, et finalement tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé.
Oui, oui.
Est-ce qu'on demande de l'aide à ce moment-là? Est-ce que quand il y a une prise de conscience, est-ce que ça se fait automatiquement, ou il y a une gêne d'aller chercher de l'aide?
J'avais pas de gêne. Moi, je suis tête de cochon et très, très orgueilleux. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai que ce mal-là va miner ma vie. Donc, je vais me retrousser les manches et je vais y faire face. D'ailleurs, c'était une belle leçon de vie dans la mesure où j'avais toujours le réflexe, moi, de deux choses. De fuir ou de paralyser. Et comme disait feu Guy Corneau, il y a trois réflexes face au danger. Et ces réflexes-là, on peut les retrouver dans le règne animal. C'est fuir, paralyser ou faire face mm-hmm. par rapport au danger. Mm-hmm. Et moi, je fuyais, je paralysais, mais là, il a fallu que je fasse face. C'était une très, très bonne leçon et que j'applique continuellement maintenant.
Alors, face-face, ça veut dire quoi dans le concret? Ça
veut aller dire, vers aller... l'inconnu. Faire face à l'adversité, faire face à tout ça et neutraliser ce mal. D'ailleurs, ça, c'est un thème qui m'habite beaucoup en ce moment. On vit dans un monde de polarité. de dualité. On regarde le mot politique et police et surtout tout des...
Pépé.
Oui, c'est ça, de la polarité. Et moi, j'aime beaucoup la troisième voie, qui est celle du neutre. Mm-hmm. C'est le pont, c'est ce qui unit ou fait le pont entre le positif et le négatif. Je ne supporte plus d'entendre dire d'être positif. Ça veut strictement rien dire. Pour moi, c'est encore tomber dans la polarité.
C'est comme le mot courage, là. Soyez courageux, c'est la même chose. Positif ou courageux, c'est la même chose, non?
C'est ça. J'aime mieux être optimiste dans le sens optimal, global, voir la vie dans ses aspects globaux et donc d'embrasser à bras le corps toutes les difficultés parce qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher là-dedans. Il y a des leçons et j'aime beaucoup le son. Je suis très, très sensible des oreilles, moi.
Alors, le son. Vous aimez la musique de la vie, quoi, finalement.
Oui,
vous
complètement.
Vous en parlez, la vie, c'est de la musique.
La vie, c'est de la musique et toutes les difficultés sont des distorsions, des dissonances. Voilà.
Donc, elle était comment la musique à l'époque, quand on s'aperçoit, parce qu'on ne se met pas tout de suite un mot d'anxiété. Oui. Comment elle était, cette musique-là?
Beaucoup d'encombrement, beaucoup de détails, beaucoup de préoccupations. J'étais pas présent. J'étais dans l'anticipation ou les regrets. J'étais pas présent. J'étais écartillé et, comme disait Eckhart Tolle, justement, dans son merveilleux livre « Le pouvoir du moment présent », c'est un mécanisme de l'ego. L'ego fonctionne sur le temps, l'anticipation ou les regrets. Et graduellement, j'ai appris à revenir ici maintenant.
À focusser. Mais on n'a pas voulu geler ce mal-là. Est-ce qu'à un moment donné où il y a eu... Bon, il y a la prise de conscience avec le joint, mais est-ce qu'il y a eu une période où on s'est dit « on va continuer là-dedans pour geler ces mots-là »
Oh mon Dieu, moi je me suis beaucoup gelé, j'ai beaucoup fui. En fait, j'ai décidé d'être officiellement un paradoxe sur deux pattes. Je me suis amusé à aller beaucoup, beaucoup justement dans les extrêmes, les pôles, pour m'exercer à retrouver l'équilibre. Mmh. Et j'aime beaucoup l'image du fil de feriste ou du funambule qui est, à force de chuter, de se redresser. J'aime beaucoup cette image-là parce que l'artiste en question arrive à composer avec les trois axes, la verticalité, le côté latéral et l'horizontalité. Et à force de se mesurer à la chute ou au déséquilibre, finit par, comme une espèce de danse, danser sur le fil et donc les trois axes se rejoignent au niveau du cœur. Mmh. Et à ce moment-là, c'est formidable. On arrive à fonctionner ou à marcher ou à danser avec la vie.
Alors, le cœur était toujours là?
Le cœur a toujours été là. J'ai un cœur solide.
Est-ce qu'il était sensible, trop sensible pour...
Oh, mon Dieu, je suis hyper sensible. Moi, je suis quelqu'un d'hyper sensible, très, très sensible aux voix, au son, à l'ambiance, au climat ambiant. Ça, je capte, comme je dis souvent, je m'amuse à dire, je pogne beaucoup de postes.
Oui, parce qu'on parle toujours de la musique aussi. Hein?
Oui,
absolument. Plusieurs postes en même temps.
Oui. Si je vais dans un centre commercial, par exemple, je trouve que c'est de la folie institutionnalisée. Uh-huh. C'est de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Je regarde les gens, ils sont... En fait,
est-ce qu'ils se perdent, les gens?
En fait, ce que je regarde des individus qui sont uniques, mais qui sont enveloppés de conditionnements. Je ne vois que des conditionnements qui se rencontrent et qui ne se rencontrent pas eux-mêmes, qui ne rencontrent pas l'autre, mais qui sont enfermés dans une bulle de conditionnement. Alors, ce ne sont que des conditionnements. Je fais, mais mon Dieu, qu'on n'est pas libre. On dit qu'on est dans un pays libre. Watch out, nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes aliénés. Je vous l'annonce.
Alors, ils sont complètement fous.
Ah oui, complètement. Mais ils sont ce qu'on appelle normaux. On dit les gens sont la normalité. Basée sur quoi? Sur l'imitation, le réflexe d'imiter. Et je me dis, mais est-ce qu'on peut s'interroger un petit peu sur ces réflexes-là?
Est-ce que vous aimez ça, des gens qui sont normaux?
Non, pas trop.
C'est plate, hein?
Non, c'est parce que souvent, il y a un double message. Les gens vont dire... par exemple, quand on pose la question à certaines personnes, ils vont dire... Oui, ça va bien. Mais tu sens dans la voix, ça va bien. J'ai beaucoup de colère, mais je peux pas la sortir.
C'est ça. Ils se retiennent, quoi, finalement.
Complètement. Ils se retiennent. Ils ont peur de la vie. Les gens ont peur de la vie, souvent.
On revient tout de suite après.
Pardon, où sont les toilettes des dames? J'aimerais aller me droguer.
Tout droit, puis tournez à gauche. Marchez jusqu'à la fenêtre, agrippez-vous à la gouttière et sautez sur le toit de l'édifice voisin. Prenez un taxi qui vous amènera à une falaise que les Autochtones ont baptisée la Salmuera de los Dioses, le cornichon des dieux. Utilisez une liane pour traverser le gouffre. Un vieux sage vous attendra de l'autre côté. Répondez correctement à son énigme, il vous remettra un rouleau de papier hygiénique et une amulette. Au coucher du soleil, l'amulette s'illuminera, vous indiquant l'entrée de la toilette des femmes. Voici une gourde d'eau et des vivres. Bonne chance.
Alors, Patrice Cocro, le cœur a ses raisons, un extrait, ça vous fait encore rire.
Ah oui, c'était de la folie, mais dans ce cas-là, de plus ludique, de joyeux. C'est un terrain de jeu extraordinaire.
Est-ce que ce terrain de jeu que vous faites depuis 32 ans, ça vous aide dans votre vie?
Oh, complètement. Complètement, je me dis toujours que le jeu, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier. Le jeu, c'est littéralement donner et recevoir. Alors que l'enjeu, et on sait qu'en politique, en économie, on ne fonctionne que sur les enjeux, c'est gagner ou perdre. Or, la vie, c'est pas gagner ou perdre. Alors, on appelle ça le Dow Jones. Ce sont des combats futiles. De se préoccuper ou de se miner l'existence pour engranger des actions qui montent, je trouve ça complètement taré. Personnellement, je dis, mais mon Dieu, c'est quoi cette proposition-là? C'est pas ça, la vie.
Alors justement, on revient avec ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens qui sont, entre guillemets, normaux, sont plates.
Bien, conditionnés, c'est ça. C'est
conditionné plus.
C'est-à-dire que les gens recherchent beaucoup la sécurité, non pas la liberté. Et là, il y a une différence fondamentale. Et qui dit liberté dit responsabilité, pas dans le sens judéo-chrétien, mais le mot responsabilité veut dire la capacité de répondre, être conscient de sa réponse, de ses actions et de ses réponses. Est-ce que je fuis? Est-ce que je paralyse? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je recrée? Dans quoi est-ce que je me complais? Qu'est-ce qui fait mon affaire? Qu'est-ce que je n'ose pas dire? Etc.
Donc, alors, on va revenir à votre histoire. L'anxiété est présente. Oui. Vous avez écrit un livre, Guérir à gorge déployée, en 2014, édition de l'Homme.
Oui.
C'est toujours une thérapie d'écrire. Qu'est-ce que ça vous a fait d'abord de sortir publiquement, parce que c'est vraiment mettre une étiquette dans un métier qui n'est pas évident.
Oui.
Y a des craintes et puis l'écriture, comment ça s'est passé?
Très, très bien. J'ai été très, très bien accompagné. J'étais prêt à le faire, j'étais mûr et pour moi, c'était une synthèse. Alors, tout ce que j'avais glané comme information au fil des ans, j'étais prêt à les mettre sur papier et à les partager. Et j'avais aucune honte ni gêne. J'ai dit non, je suis prêt, voilà, voici ce que je vous offre. S'il y a un écho, une résonance pour vous, tant mieux, sinon tant pis. Et j'ai donné des conférences, des partages entre-temps.
Et vous avez donné encore des conférences là-dessus. Sur ça. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous vous adressez aux gens, quand vous donnez les conférences? C'est quoi les messages précis?
Ce que je dis d'abord et avant tout, c'est n'ayez pas honte, vous n'êtes pas seul. Dieu sait que l'anxiété est très, très courante, encore tabou, peut-être un peu moins, mais encore très tabou. Et donc, lâchez le vernis, l'image, c'est bien beau l'image ou le vernis, mais votre essence ou votre unicité est un trésor. Alors, mettez-les en avant-plan. Et vous n'avez pas à avoir honte puisque c'est beaucoup plus courant qu'on pense. Et voilà, donc allons-y.
Alors cette unicité, vous l'avez cultivée, vous l'avez nourrie comment? Parce que bon, c'est sûr qu'il y a des thérapies, tout ça. Vous avez pris quel chemin?
J'ai décidé, comme je suis tête de cochon, de m'autoriser à me taper sur les murs librement, de façon totalement consciente, à me complaire, tous les défauts du monde, d'ailleurs, puis c'est formidable de jouer pour ça. Alors, tous les aspects chaotiques et tout ça, je les ai assumés, disons. Et voilà, donc j'ai dit, on va voir qu'est-ce que la vie cherche à me dire à travers tout ça. Donc, en assumant complètement, je dis, ben oui, regarde. Puis, tant que ça fait pas assez mal, on continue, puis voilà. Donc, non, ne pas chercher à éviter, mais faire face, littéralement, foncer dans le tas.
Et ça veut dire quoi, foncer dans le tas?
Aller vers l'inconnu. Littéralement. Et vous savez quoi? J'ai réalisé, ça je l'ai traduit, que l'anxiété, en fait, c'est le connu qui est anxiogène. Ce n'est pas l'inconnu, contrairement à l'idée répandue. Parce que, en fait, la crise d'anxiété, littéralement, c'est un signal, c'est un conflit entre le connu ou l'ego qui se rebelle contre tout ce qui n'a pas étiqueté. Alors qu'au contraire, la vie, l'essence de la vie, c'est de l'impermanence. Ce n'est que du mouvement et de la transformation en permanence. Et donc, plus on dit oui à l'inconnu, mais en étant complètement les mains sur le volant, mm-hmm. puis en étant complètement présent, et plus il y a des cadeaux, des opportunités de grandir, de se déployer. Sinon, ça équivaut pour un papillon à rester dans la chrysalide. Alors, c'est pas ça. Le papillon, il dit « Ben oui, j'y tiens à ma chrysalide. » Ou le poussin qui dit « Mon Dieu, que j'aime ma coquille. » Ben non. C'est « Déploie-toi.
Voilà. » Est-ce que c'est comparable avec le bon trac et le mauvais trac? Des fois, au théâtre, on dit « Bon, le mauvais trac. » Alors, l'anxiété, est-ce que ça serait le mauvais trac?
Oui, parce que à ce moment-là, par exemple au théâtre, si on a un mauvais trac, c'est qu'on cherche à reproduire ce qu'on a fait la veille, ou on cherche à être validé dans l'œil de l'autre, plutôt que d'être simplement en contact avec son partenaire et d'être présent. Et là, nécessairement, il va y avoir quelque chose de nouveau, même mm-hmm. si la pièce a été répétée, même s'il y a des balises, mais en même temps, il y a des cadeaux. Le public est différent, on n'est pas nécessairement dans le même état que la veille, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se produire.
Est-ce que physiquement, vous avez changé vos habitudes, c'est-à-dire faire plus de gymnastique, manger, changer l'alimentation?
Changer l'alimentation, oui, absolument. Je suis devenu, non, pas végétarien, mais je mange du poisson, des coquillages. Mais je mange plus de viande, mais ça, c'est moi. Je mange beaucoup plus léger également. Je marche aussi. Et là, j'ai déménagé à la campagne depuis 8 mois. Oui.
Alors, ça a l'air de quoi, ça?
Ben, je marche. Ça a l'air de quoi? Ça fait du bien, ça.
Mais une heure par jour, c'est une discipline? Non,
il n'y a pas de...
Il y a de la musique dans les oreilles, ça se passe comment?
Non, c'est très aléatoire. Il y a des journées, je ne marcherai pas, d'autres, oui.
Okay.
Je vis à la campagne depuis 8 mois. J'adore le silence. Je n'ai aucun problème avec le silence. Dans l'auto, souvent, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Des fois, oui, mais... J'ai aucun problème avec ça. Et de dormir la nuit, c'est incomparable. Les ciels étoilés, tout ça, c'est...
Alors donc, quand même, un déménagement vers la campagne pour vous retrouver.
Oui.
Le silence, vous n'avez pas peur d'être tout seul avec vous-même?
Pas du tout, du tout. Puis même mon copain est agent de bord et je me posais la question au début. J'ai dit, comment ça va être quand je vais être seul dans la maison quand il est parti? Aucun problème.
Donc, vous êtes bien. Méditation?
Oui, à ma façon. Oui. Respiration... focalisation, méditation, interrogation sur le sens de la vie, tout ça. Oui.
Et je suis avec vous aussi. C'était une belle rencontre que vous avez vécue jusque-là. Mais elle va être prolongée, cette rencontre-là, puisqu'il y aura des chroniqueurs, chroniqueuses qui vont venir regarder avec vous cette vie, ce surcroît de vie que vous avez.
Oui.
Et juste pour faire la transition vers ça, on a envie d'entendre une chanson que vous aimez, que vous écoutez parfois. Ça serait laquelle?
Les regrets de Souchon.
Ah, bon, ben on se laisse là-dessus, on entend et on revient.
Rêvant des révolutions sur le bord de la rivière, il y avait des illusions dans ma main que tu laissais sous ton pullover. De mal penser la faiblesse de n'avoir pas fait d'études. Les chansons de ma jeunesse et de Robert Zimmerman, l'altitude. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. J'ai perdu mon allégresse sur des bateaux de conquête. J'ai perdu par leur vitesse quelque chose que dans mon cœur je regrette. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets.
Les effets thérapeutiques de la marijuana, on le sait, c'est à l'ordre du jour. Il y a une loi qui s'en vient bientôt. On dit là, que le fédéral devrait adopter une loi cet été. On ne sait pas encore comment les provinces vont réagir, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai envie de parler de marijuana, C'est parce que dans votre histoire personnelle, oui. Patrice Cocro, il y a une chute difficile avec le pote, mais moi, j'avais envie qu'on fasse l'éventail du pote pour comprendre peut-être ce qui vous est arrivé, mais aussi, c'est quoi les autres bienfaits que ça peut avoir? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme
ben, dans mon cas, c'est une... moi, j'ai absolument... tant mieux si c'est légalisé, bravo, dans le sens où on va... Ne nous mettons pas la tête dans le sable. C'est très bien, mais moi, c'est impossible pour moi de... Le THC, moi, j'ai... D'ailleurs, 10 ans après avoir eu cette chute, j'ai dit, je vais essayer voir. J'ai pris une puff. J'ai battrippé pendant 8 heures. C'est terminé. Merci, bonsoir.
Ben, vous n'êtes pas le bon candidat, mais il y en a plein.
Moi, ça ne me va pas, mais bon.
On a avec nous donc Marc-Boris Saint-Maurice, cofondateur du Club Compassion de Montréal. Il faut préciser Montréal parce qu'il y en a plusieurs au Canada. Bonjour, Marc-Boris.
Bonjour.
Content que vous soyez là. Alors, je vous pose la question d'emblée. Est-ce que vous avez toujours été convaincu des vertus thérapeutiques de la marijuana?
Au fait, à l'origine, j'étais pas particulièrement convaincu. Moi, je faisais de la recherche pour trouver des bons arguments pour la légalisation en général. Mm-hmm. Et c'est suite à ces recherches-là, il y a plus de 20 ans, ça m'a amené à la bibliothèque. Et c'est là que j'ai découvert plusieurs récits de gens aux États-Unis qui avaient contesté finalement la loi. Et il y avait à l'époque 7 patients qui recevaient du cannabis du gouvernement fédéral américain dans les années 80.
Bien avant nous.
Oui, oui, bien avant. Et ils ont comme fermé le programme après, mais c'est en lisant ça, j'ai découvert en Californie dans les années 70, dans les départements de chimiothérapie, oncologie, glaucome, etc. Et c'était les premières découvertes. Et à force de lire et m'instruire, j'étais vraiment étonné, j'étais surpris. Et c'est là que je suis devenu convaincu, finalement, de la chose.
Et non seulement convaincu, mais en 99, avec d'autres, vous fondez le Club Compassion à Montréal. Épisode pas super simple, vous l'avez fait pas avec l'accord de toute la communauté ou encore... c'était un acte de bravo, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, c'était certainement désobéissance civile. Je connaissais Hillary Black qui avait fondé le Club Compassion à Vancouver il y a quelques années avant. Et je parlais beaucoup avec elle et j'ai même vu ce qui se faisait à Vancouver. Je disais, hey, ça nous prend ça à Montréal. Et donc, avec d'autres, on s'est lancé. On a trouvé un local qui se trouvait directement à l'autre côté de la rue du poste 38 sur la rue Rachel.
Et à donc, peine provoquant.
Ben, et ça a certainement contribué à faire les manchettes.
Oui.
Et peu de temps après, quelques mois plus tard, j'ai été arrêté pour trafic. Ils ont saisi une 60aine de grammes. Là. On n'était pas des caïds. Mm-hmm. Et on a fait un procès sur 2 ans et demi et j'ai été acquitté. On a revendiqué l'inconstitutionnalité de l'interdiction de vendre du cannabis à des fins thérapeutiques. On a eu gain de cause qui a résulté dans l'arrêt de procédure. Donc, ils n'ont pas changé la loi, mais nous, on s'est trouvé acquitté.
Ça faisait déjà quelque chose comme une brèche. Parce que là, les juges n'avaient plus le choix de regarder cette situation-là où vous avez été acquitté. On lâche le politique, ça, c'est mon autre émission d'habitude. On s'intéresse maintenant aux bienfaits de cette marijuana. Donc, vous avez combattu pendant longtemps, on y arrive, il y a des... comment je pourrais dire? Il y a un aspect thérapeutique à la marijuana.
Oui, au niveau médical, principalement, il y a 5 symptômes qui sont soulagés. On parle de nausées, perte de poids, perte d'appétit, douleur et aussi les spasmes musculaires. Mm-hmm. Quand on parle de ces 5 symptômes-là, ça rejoint énormément de différents mots. Les spasmes musculaires, exemple, sclérose en plaques, les nausées, perte de poids, perte d'appétit, ben, tout ce qui est chimiothérapie ou trithérapie de VIH et douleur, ben, évidemment, douleur, ça va des douleurs post-opératoires, des douleurs chroniques. Il y a d'autres aspects aussi, la pression intraoculaire pour les cas de glaucome. Et ça, c'était au début qu'on avait ces 5 symptômes-là. Et là, on est en train de découvrir de plus en plus de bienfaits. Aussi, au niveau psychologique, psychiatrique, il y a beaucoup de gens pour qui ça l'aide à régulariser, justement, s'ils ont des troubles de comportement. Des cas, il y a des gens qui consomment et que ça peut causer des troubles anxieux, mais il y a des gens aussi pour qui la dépression ou de l'anxiété, que le cannabis peut être bénéfique aussi. C'est du cas par cas, et c'est pas pour tout le monde, mais pour bien des gens.
Il faut être à l'écoute, en fait, ses besoins.
Oui, et souvent, c'est une question de dosage, de différentes variétés. Il y a plusieurs génétiques. Si on a un sativa ou un indica, ça peut avoir des effets différents. Mais bon, les gens, s'ils consomment, puis que ça leur fait pas, ben on leur dit, consommez pas, puis allez-y.
Est-ce qu'on serait coquin au point de dire que peut-être que Patrice Cockereau n'a pas employé le bon item?
Je peux pas être certain. J'ose pas m'avancer. C'est sûr qu'il nous a fait part d'une expérience qu'il a réessayé plus tard et que ça y a pas fait. T'sais, à un moment donné, il faut pas insister non plus pour rien.
Non, c'est ça.
Si ça le fait pas. Ce qu'on voit souvent avec des utilisateurs novices, c'est si le dosage est trop élevé, des fois, ils peuvent avoir une expérience désagréable. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas éventuellement moyen de gérer ces effets-là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais pris de leur vie, puis qui s'en prennent, puis que c'est trop fort, ils ont une mauvaise expérience et ça leur enlève tout à fait. Fait que nous, on essaie d'aider les patients à naviguer à travers ça. Mais bien entendu, c'est pas toujours pour tout le monde. Puis même des gens malades, ils essayent et ça guérit pas tout non plus.
Non,
des fois, on essaye, puis c'est pas la bonne solution.
Mais
donc,
pour l'anxiété, on peut couper la poire en deux. Des fois, c'est bon, des fois, ça l'est pas. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
Effectivement, la même chose, c'est intéressant avec l'épilepsie. Mm-hmm. On constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent régulariser leur situation épileptique, réduire les crises. Mais il y a aussi une catégorie de gens pour qui ils en prennent même une pof ou sont dans une salle où plein de gens fument et que ça déclenche une crise épileptique.
Mmh. Ah oui.
Et c'est intéressant de voir que ça agit sur le même centre, évidemment, parce que dans un cas, ça le soulage, dans l'autre cas, ça le provoque. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et donc, c'est ça, il faut y aller avec précaution.
Mais c'est intéressant parce que dans votre éthique, puisque le Club Compassion propose une éthique, on rappelle que les autres ont aussi des droits, il faut faire attention, c'est quand même la boucane qui se rend, qui voyage un peu partout. Avant qu'on se quitte, Marc, Boris, à l'aune de la légalisation de la marijuana au Canada, est-ce que vous croyez que votre expertise à vous, au Club Compassion, va être sollicitée?
Tristement, on semble être exclu de tout ce qui se fait. Et j'ai été aux consultations. J'ai écrit à la ministre provinciale, au premier ministre fédéral, au ministre en charge au gouvernement fédéral. Je me suis proposé, bon, à part avoir fait part de mes réflexions, comme les 20 000 autres Canadiens et Canadiennes, j'ai pu témoigner aux commissions parlementaires à Ottawa, mais je sens pas que... Il y a un appétit de s'asseoir à la table avec nous. J'ai un peu l'impression qu'ils veulent légaliser pour essayer de nous tasser du décor. Ils disent qu'ils veulent éliminer le marché noir. Et moi, je me sens comme visé, comme on nous décrit comme étant des criminels, quand dans le fond, on est des militants depuis 25 ans. Et nous, on milite. Finalement, ils légalisent et on se fait tasser. Donc, tout ce pour le quoi on se bat depuis tout ce temps-là, c'est comme une victoire un peu vide et c'est malheureux parce qu'on a beaucoup à contribuer et on aimerait ça.
Je comprends pas cette...
C'est...
On comprend pas ça.
Ouais.
C'est un peu le mauvais sort de l'inventeur. Quelqu'un invente quelque chose et puis ils passent toute leur vie à le faire. Puis là, du jour au lendemain, c'est fait en Chine puis c'est vendu au Dolorama. Puis le gars qui l'a inventé, il est pogné avec rien.
Mais on sent que Patrice Cockereau, vous êtes sensible à certaines injustices qui vivent.
Ben oui, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. C'est vraiment ridicule.
On verra là si j'arrive à tirer mon épingle du jeu, ce qui va arriver. C'est pas fini, moi. Ça fait 25 ans que je me bats et je pars avec
d'arrêter. C'est pas fini.
Non, voilà.
Si 50 ans de prohibition ne nous ont pas éliminés, c'est pas la légalisation qui va le faire.
Voilà, donc c'est les derniers mots de Marc Boris Saint-Maurice, cofondateur du Club Compassion de Montréal. Merci.
Merci.
Slow que j'ai dansé, c'était mes pieds l'été dernier. Il n'y avait pas de saxophone, il n'y avait pas de clavier. Que le bruit des jambes et le y'a du bois qui flambe avec moins de chaleur. Ça sentait les patates frites, mais on était loin ailleurs, loin ailleurs. Le plus beau slow danser. C'était l'été, c'était sur l'asphalte et on était nu-pieds. Les gens passaient sans s'arrêter. Et la police, même la police, nous laissait danser. Des shuffles et des yéyés, croyez-moi j'en ai frotté. Des Joanne et des Chloé, disparu depuis le blues de ma vie. Viens danser pour moi, viens te suspendre. Au monde, c'est toi qui fais tout. Danse avec moi, que tu sois n'importe où au monde, je sentirai toujours les ondes. Danse avec moi, viens danser pour moi, viens te suspendre. La plus belle danse au monde, c'est toi qui fais tout. Pense avec moi, que tu sois n'importe où au monde, je sentirai toujours les ondes. Danse avec moi.
Stéthoscope.
On peut s'inquiéter de nos particularités individuelles, de nos petits bobos individuels, mais ce qui génère de l'anxiété là, chez nous, c'est quand même pas seulement entre nos deux oreilles. Même si on blâme notre mode de vie, et c'est vrai, notre mode de vie peut nous rendre, disons, moins en forme pour accueillir les difficultés, le stress, les changements, c'est quand même pas seulement à l'intérieur de nous, cette anxiété-là. Notre société peut aussi être anxiogène, nous rendre anxieux. Il y a plusieurs idées à la mode. Il y en a une, entre autres, qui voudrait qu'on ait un lot trop important de mauvaises nouvelles tous les jours. Beaucoup de psychologues et de psychiatres ont défendu cette théorie depuis les années 2000, et même, entre autres, le psychiatre Furet, le psychiatre français, qui écrivait dans la revue Psychologie à la fin des années 2000, je le cite, « Écoutez attentivement les nouvelles du matin. Que disent-elles? À de rares exceptions, il ne s'agit que d'accidents, de décès, de catastrophes, de difficultés ou de tensions. Elles ne véhiculent que de la lourdeur psychique. On nous fait très rarement part de bonnes nouvelles qui nous inspireraient, nous tireraient vers le haut. » Bon, évidemment, ce type de regard, c'est un petit peu comme si on voulait faire l'autruche. Il y a tellement d'auteurs, d'ailleurs plus poétiques, de Hannah Arendt en passant par Chomsky jusqu'à l'activiste documentariste Michael Moore, qui rappelle que la peur sert bien des régimes, mais ce n'est pas seulement le régime de nos tours de taille. C'est dans des régimes de peur ou dans des sociétés où les gens ont plus peur, on consomme davantage et peut-être même qu'on est plus facile à gouverner. On regarde maintenant quelques indicateurs sociaux, en fait un indicateur social au Québec, très important, c'est celui de la présence d'enfants qui auraient des troubles anxieux. Caroline Berthiaume, qui est psychologue et cofondatrice de la clinique des troubles anxieux de l'hôpital Rivière-des-Prairies, rappelle qu'un jeune Québécois sur quatre souffre de troubles liés à l'anxiété. Et ça, on peut lire ça dans 10 questions sur l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent. Il y a plein de raisons à ça, dit-elle. Le système de scolaire, les parents ont de hautes exigences et donc il y a beaucoup d'anxiété liée à la performance. Peut-être que c'est ça aussi. Chaque société commande des conduites différentes.
et la nôtre nous exige, nous demande d'être plus performants. Ça peut rendre anxieux. Dites-vous que le bol d'anxiété, c'est pas juste dans le cerveau. On a la peur de son temps.
Alors, mesdames, messieurs, fait plaisir de vous présenter naturopathe Mali Pradishid. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez venir nous parler de tout ça, de ses bienfaits une fois semaine.
Oui, exactement.
Parce qu'on en a besoin. On a besoin de médecine alternative. On a besoin de changer, de comprendre les choses au niveau de l'alimentation, de ce qu'il faut prendre. Et c'est possible de s'en sortir. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, on a toujours un invité qui nous dirige vers une problématique, vers un petit côté de santé qu'il a vécu. Et Patrice Cocot nous parlait d'anxiété et on va en parler pendant tout le long de l'émission. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la naturopathie, au niveau de ça finalement? Est-ce qu'il y a les respirations, il en a fait, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, en effet, je suis vraiment contente qu'on parle de naturopathie avec l'anxiété parce que c'est pas tout le monde qui sait que la naturopathie, c'est pas juste des suppléments, mais en fait, ça va être une question de gestion du stress, ça va être gestion des émotions, l'alimentation aussi, puis tout ce qui est hygiène de vie, en fait.
Alors, respiration en premier, j'imagine que si on respire mal, on est à bout de souffle comme ça, la vie est plus courte et plus difficile. Hein?
Exactement, la respiration, c'est si simple, mais est-ce que tout le monde le fait comme il faut? Il y a une technique qui a été...
éprouvée.
Éprouvée, développée par un médecin il y a une quinzaine d'années. Puis ça a été même basé sur des recherches en neurocardiologie, en neurosciences, qu'on appelle la cohérence cardiaque. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pratiquez?
Oui, d'une certaine façon, oui.
Oui, donc on sait que le cerveau a une influence directe sur notre cœur, nos sentiments. Par exemple, lorsqu'on ressent une émotion forte, une émotion négative, de l'anxiété... ou de l'angoisse, ben le cœur va s'emballer, va avoir des palpitations.
Mais est-ce que vous savez... Parfois, c'est magnifique, ceci dit.
Oui, il y a des bonnes palpitations aussi.
Tu parles de l'amour, là.
Ben oui, c'est ça.
Oui, ça peut être anxiogène, l'amour aussi.
Parfois,
hein.
Oui.
Exactement, les battements de cœur, les papillons, hein, c'est ça.
Alors, donc, on va se dire qu'on n'est pas amoureux, là, mais qu'on est anxieux.
Oui, c'est
anxieux.
Ça, qu'on est anxieux. Donc, est-ce que vous savez aussi que dans le cas inverse, on peut aussi contrôler notre cerveau, nos émotions, en régulant justement le rythme cardiaque?
Alors, est-ce qu'on respire? On dit toujours justement en théâtre, Patrice, que c'est par le ventre que ça se passe.
Exactement.
Est-ce que c'est ça qu'il faut développer pour trouver la bonne respiration?
C'est ça.
Oui.
C'est vrai. Les personnes qui parlent beaucoup, les personnes qui doivent contrôler, c'est dans le ventre.
Oui.
Puis les gens ont tendance à respirer. Si on dit prenez un grand respire, puis ils gonflent les poumons, mais en fait, on prend pas vraiment un respire, on fait juste gonfler.
Oui.
Donc, le respire du ventre. Puis,
Commencer par ça. Par une bonne respiration.
5 secondes qu'on inspire, 5 secondes qu'on expire. Donc, juste un petit 5 minutes, 3 fois par jour.
On ferme les yeux?
On peut fermer les yeux, mais il existe aussi des applications qui nous aident à bien contrôler la respiration. Un curseur qui monte, un curseur qui descend sur les téléphones intelligents.
Alors, ça passe par la tête, bien évidemment. Si on a une image qui... on se sent nerveuse, on se dit, bon, ça y est, cette image-là, comment je vais faire pour m'en débarrasser? On va tout de suite dans la respiration?
Exactement.
Et ça débarrasse un peu?
Ça débarrasse, ça donne un effet d'apaisement instantané.
Au niveau de l'activité physique, Patrice nous disait que lui, c'est la marche. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent un petit peu anxieux? Est-ce que c'est bon?
La natation,
pour certaines personnes, ça va être le yoga. Pour d'autres personnes, ça va être de l'entraînement physique, le jogging. Pour d'autres personnes, ça va être plus intense, mais ça va dépendre de notre personnalité. Donc, n'importe quel exercice, bon, ça a été éprouvé depuis des années que ça a des bienfaits sur les états émotionnels pour les personnes anxieuses. Donc, n'importe quel exercice, aller prendre une marche en forêt, aller promener son chien, ça fait du bien.
Vous savez ce qui est important, on parle de respiration, rire.
Oui, rire.
Rire permet de se recentrer, premièrement, et de chasser les idées. Si on devient instantanément dans le moment présent et ça régule le rythme cardiaque.
Alors, rire davantage.
Oui.
Mais quand on a une crise, est-ce qu'on peut se dire, pendant qu'on a une crise, C'est dire, on va rire, on va aller marcher. Est-ce qu'on peut faire cette défense-là?
Bien, c'est sûr qu'on va commencer par la respiration, parce que sûr, en pleine crise de panique, rire, ça fait peut-être un rire jaune un peu.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, commencer par la respiration, puis après, aller prendre une marche, aller prendre de l'air. Mm-hmm.
Ouais. Aller prendre de l'air un petit peu plus. Au niveau de l'alimentation, c'est sûr qu'il faut enlever tout ce qui est les stimuli, quoi. J'imagine que le café, le thé, il y a de la caféine dedans et tout ça. Faut changer carrément, de prendre des choses qui nous tranquillisent davantage.
Exactement. Moi, ce que j'aime bien suggérer, c'est le thé vert.
Oui.
Le thé vert qui contient la L-théanine, qui a un effet calmant presque instantané. Une relaxation profonde qui est presque similaire à l'état qu'on a quand on fait de la méditation.
Ah, le thé vert?
Oui, en fait, c'est la L-théanine qui se retrouve dans le thé vert.
D'accord.
C'est sûr qu'il y en a là, dans le thé vert, mais le prendre en capsule serait plus efficace.
Oui, mais bon, c'est quand même un geste intéressant de prendre
exactement.
Son thé. Ça doit calmer, juste de mettre la main, voir la bonne température.
De boire quelque chose de chaud
de
aussi, c'est réconfortant.
Et de qu'on le prendrait le matin, si jamais on sent qu'on peut le remplacer par le café, le thé vert.
Exactement. Le matin et l'après-midi, ça a quand même un effet qui réveille, pas comme le café. Donc, de longue durée, ça dure à peu près... de 8 à 10 heures. Là.
On élimine le café, on s'entend pour ça?
Oui, on s'entend, on élimine le café.
Et au niveau de l'alcool, ça, on dit toujours que l'alcool, ça a des bienfaits dans le sens qu'on rigole pour certaines personnes, ça dépend, il y a des gens qui ont le vin triste, il y a des gens qui ont le vin gai, et on aura peut-être tendance à noyer nos peines avec l'alcool, mais quand on est anxieux, c'est vrai que ça peut être facile de se dire, on va prendre un petit vin rouge, ça va nous calmer.
Ça a un effet instantané, mais c'est quelques heures après que c'est plus anxiété. En fait, c'est au niveau du sucre aussi. Quand on parle de la glycémie, l'alcool a beaucoup de sucre dedans. Comme tout ce qui est aliments, sucreries, soda, va augmenter la glycémie, ça va donner de l'excitation, puis c'est la chute après qui...
Donc, c'est un faux ami, finalement, quand on est anxieux.
Oui.
Parce qu'on va le prendre tout de suite, puis après ça, il nous abandonne, on a une remontée finalement.
Exactement.
Donc alors, on élimine ça aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres tisanes qu'on pourrait conseiller aux gens?
Il y a la tisane de camomille qui va aider à calmer rapidement. Dans la camomille, on retrouve certaines composés qui sont liés aux mêmes récepteurs cérébraux qu'on retrouve dans les médicaments comme le Valium. Là. Mm-hmm. Ça calme.
Valium est moins à la mode en ce moment.
Oui. Non, en effet.
C'est fini, le Valium.
On n'entend presque plus parler.
Non,
là.
C'est vrai. tant mieux.
Je dirais aussi dans l'alimentation de regarder du côté des aliments qui sont alcalins. Plutôt qu'acide.
Oui, en effet.
Donc,
comme
café,
le café,
alcool,
le
ça, sucre, c'est acide.
Oui.
Et un des problèmes au niveau de la santé et du tonus général, c'est l'alimentation trop acide.
Oui.
Ah. Ça peut avoir une incidence sur l'humeur et les pensées et tout ça.
Oui.
Et permettez-moi d'intervenir en disant qu'en plus, dans cette émission, on va être riche d'une nutritionniste tantôt.
Alors,
on va explorer encore
les
mieux
aliments.
Les aliments.
Oh. Alors moi, je voulais avoir au niveau des... Pour terminer, oméga-3, ça c'est à la mode, là. C'est pas comme les Valium. Oméga-3, on a intérêt à en prendre.
Oui, on a intérêt à en prendre. Puis souvent, le monde, ils ne savent même pas pourquoi on en prend. On en prend parce qu'on a besoin, parce que ça nous aide à faire des hormones dans le corps. Le cerveau se nourrit nécessairement d'acides gras et contient des acides gras. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour réguler au niveau de l'humeur et de la dépression, puis aussi c'est bon pour son effet anti-inflammatoire.
Alors, est-ce que c'est évidemment en gélule ou dans notre alimentation bien
évidemment? Dans l'alimentation, le plus possible, mais on n'arrive pas nécessairement à manger autant d'oméga-3, puis c'est au niveau de la conversion aussi. Donc, en supplément, ça va être plus facile.
Et supplément à partir, c'est quoi les doses?
Particulièrement pour les troubles d'humeur, d'anxiété, on va aller choisir un produit qui est plus élevé en AEP.
Mm-hmm.
Donc, on conseille jusqu'à 1000 mg par jour. Oui, spécifiquement pour l'anxiété.
Et on voit pas mal de différences quand les gens prennent. Est-ce que vous avez eu des témoignages?
Il y a eu plusieurs recherches.
Des études
Il y a eu plusieurs études qui sont appuyées que l'AEP a une action positive sur la dépression.
Alors, très bien, oméga-3. Et une tisane qui serait extraordinaire en terminant, qu'on ne connaît pas?
Une tisane qu'on ne connaît pas, peut-être...
Mais apaisante, parce qu'il y en a des multitudes, mais qu'est-ce qu'il faudrait découvrir?
Un produit que moi, j'aime beaucoup, c'est l'ashwagandha. qui est un produit qui est une plante, une racine adaptogène qui vient de l'Inde. Adaptogène parce qu'il aide le corps à mieux gérer le stress, mais aussi l'esprit à mieux gérer le stress. Okay. Donc, il va réduire le stress et l'anxiété. Puis en plus, c'est anti-inflammatoire, ça l'aide, ça l'induit le sommeil réparateur et profond aussi. Puis aussi, ça a des effets sur la fertilité.
Alors, Ashwagandha, merci beaucoup Mali Pratichi, naturopathe. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Par le boulevard des temps gris,
sous un ciel ni jour ni nuit,
nous avancions sans rien demander. Pas d'ennui mais pas d'histoire,
pas de peur mais pas d'espoir,
quand par hasard nous sommes rencontrés. Habitude et rapport se doit.
Solitude consensuelle, petit bonheur mais pas plus que ça. Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. C'est de l'amour. C'est comme
ya ya la ta 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 ya la ta.
Pas de plan et pas d'astuce,
pas de jeu de roulette russe,
pas de grand désir de tout changer. Passage mais pas si fêlé,
prise au passage obligé.
Au fond on ne pouvait pas s'éviter. Et si les anges sont bien réels,
sans rendez-vous, mais sans retard
et sans même s'être recherché. Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne.
C'est aussi bon pour votre santé. Dites-nous en plus sur Facebook en visitant la page Canal M, la radio de Vuzévoix, ou en repérant @canal_m sur Twitter.
Pas seulement le théâtre, pas seulement la conscience de soi, les aliments aussi nous donnent de l'énergie, peut-être qu'ils nous remontent aussi le moral. Et qui de mieux pour valider toutes ces hypothèses et idées que notre Claudine Larivière nationale, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour Claudine.
Salut.
Alors, content que tu sois à table avec Patrice Cocro.
Absolument.
Hein? Bon. Et
de la rencontrer.
Ben, c'est ça.
C'est un honneur, écoute. Moi, je te connais très bien.
Oui, parce que en fait, on écoutait pas juste le théâtre. Moi, je t'ai vu déjà dans Rhinocéros, qui était fabuleux, mais à la télé.
Ah oui, ça fait partie de mon enfance.
Bon, tu vois.
Oui.
Donc, cette digression passée, il reste que les aliments anti-anxiogènes, Ça pourrait exister, Claudine.
Ah, oh, absolument. Tu sais, la nutrition, c'est vraiment la base, en fait, de ben, comment on fonctionne au quotidien, mais ça a un énorme impact aussi sur notre humeur, comment on va se sentir au quotidien. Mm-hmm. Donc, les aliments ont un pouvoir, justement, à dicter un peu si on va être plus anxieux, si on va être plus calme, si on va être plus endormi, par exemple, ou on va être plus excité. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'aliments qui peuvent nous aider, justement, à mieux équilibrer notre humeur, donc aussi à contrer les effets de l'anxiété. Absolument.
Il faudrait même faire une belle assiette, là, parce que vous allez voir, il y a plusieurs aliments intéressants avec des vertus insoupçonnées.
Oui.
Je pense d'abord à l'avocat.
Oui. Mmh. Ben, écoute, l'avocat, c'est un aliment que j'adore beaucoup, donc ouais. C'est pour ça que je...
Moi aussi.
Ah, écoute.
Unanimité.
Et le truc avec l'avocat, souvent, quand je fais mes coachings avec mes clients, c'est que... on ne peut pas y aller juste avec un quart d'avocat ou un demi-avocat. On va y aller avec l'avocat au complet. Donc, il faut quand même bien équilibrer le restant de nos gras dans la journée. Mais par contre, ça contient d'excellents gras. Et l'avocat va vraiment... dans le fond, c'est rempli de tyrosine, qui est une composante qui va aider à la formation de dopamine et de noradrénaline, qui va justement nous donner un boost. Donc, quand on a un petit down, on se sent anxieux. Souvent aussi, va suivre une perte un peu d'énergie. C'est émotivement difficile.
Une guacamole, pas de sel.
La guacamole, pas de sel, pas... Oui, exactement. Pas trop d'épices non plus. Donc, l'avocat va avoir le potentiel de vraiment adoucir, justement, puis amener du calme dans notre corps, oui.
Il y a aussi l'habituelle banane.
Oui, absolument. La banane, elle contient, dans le fond, du tryptophan. Le tryptophan, c'est un élément qui est très, très, très utilisé justement avec les personnes anxieuses ou les personnes qui ont de la difficulté aussi à aller dormir. C'est un acide aminé qui est essentiel, ce qui veut dire qu'il faut aller le chercher dans notre alimentation. Mmh. Puis en plus de ça, c'est très difficile à être absorbé par notre système. Donc, une supplémentation en tryptophane ou vraiment de cibler particulièrement des aliments qui vont être riches en tryptophane vont apporter énormément de bénéfices. Donc, le tryptophane, c'est vraiment... on le trouve pas juste dans la banane. On va le trouver aussi dans les blancs d'œufs, la spiruline qui est très populaire en ce moment. La morue aussi, qui est un poisson que moi, j'aime pas particulièrement, mais qui a beaucoup, beaucoup de bénéfices pour la santé. Les graines de soya, le fromage, les graines de citrouille, le chou. Bref, il y a vraiment une liste assez exhaustive, mais eux, c'est les aliments qui vont avoir une quantité plus significative justement pour aller chercher ce tryptophane dont on parle. Ouais.
Et évidemment, côté fruits, c'est assez prolifique aussi. C'est quoi les fruits qu'il faut retrouver pour
en fait, les lutter fruits, contre l'anxiété? Les fruits, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont des propriétés antioxydantes. Donc souvent, on va parler de la vitamine C, par exemple, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Donc c'est sûr que si je suis constamment stressée, qui souvent va collaborer avec l'anxiété. C'est comme des amis, ils se tiennent par la main. Donc, comment est-ce qu'on veut diminuer l'effet du stress pour aller chercher un état qui est beaucoup plus calme à l'intérieur? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé souvent des fruits qui sont très colorés, qui vont... plus les aliments sont colorés, plus ils vont avoir une diversité de nutriments, de vitamines et minéraux, dont les antioxydants. Donc, très coloré égale j'ai beaucoup d'antioxydants. Si j'ai beaucoup d'antioxydants, je diminue l'inflammation. Si mon inflammation, elle est diminuée, mais je suis capable de contrôler et de mieux aussi tempérer l'effet du stress et de l'anxiété dans mon corps. Donc, on va aller chercher énormément de bénéfices à ce niveau-là. Parce que le stress, ça tue à long terme. Oui. Alors, comment est-ce que je peux diminuer ce stress physiologique-là, donc un stress émotionnel qui est venu m'affecter au niveau physiologique? Comment est-ce que je peux avoir un impact à ce niveau-là à travers mon alimentation? Oui.
Ce serait le fun aussi qu'on se récompense là, après toutes ces bonnes choses ingérées.
Absolument.
Qu'en est-il du fabuleux chocolat noir?
Ah, je l'aime-tu, le chocolat noir?
Mais, est-ce que, Patrice, t'aimes le chocolat?
Oui, j'aime ça de temps en temps.
Ouais. Okay. Ouais, ben les gens ont de la misère un peu à s'habituer au goût un petit peu plus amer. Mais quand on passe le niveau d'amertume, après ça, c'est tellement bon en bouche. Puis je dis aux gens, persévérer. C'est comme une nouvelle habitude. C'est pas trop confortable au début. Puis à un moment donné, on s'habitue au goût puis on est capable d'apprécier. Donc, le chocolat, c'est un peu la même chose, en fait. Le chocolat noir va être riche en magnésium. Le magnésium va augmenter la production de sérotonine et la sérotonine aide beaucoup, justement, à mieux gérer notre humeur. Va être beaucoup impliqué au niveau des émotions, au niveau de l'excitation, nos comportements alimentaires. Donc, il y a énormément de bénéfices à prendre quelques petits morceaux de chocolat.
Pour qu'on le repère, la sérotonine, c'est ce qu'on retrouve quand on fume, puis il faut pas, là, c'est ça.
Ben,
hein?
En fait, c'est qu'il y a plein de composantes qui vont faire en sorte qu'on va produire plus de sérotonine.
Voilà. Mais ça, c'est un moyen, le chocolat, c'est un moyen naturel d'en produire sans fumer.
À tous ceux qui nous écoutent, ça ne devient pas de la cigarette.
Donc, c'est ça, c'est qu'il y a des composantes qui vont stimuler notre cerveau à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. La sérotonine, elle va vraiment réguler notre humeur et tout ça. Ça va aussi venir jouer un peu au niveau du centre de l'humeur, de la récompense au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'autant on peut être addicté, donc dépendant de certaines substances comme la cigarette, l'alcool, on peut être aussi dépendant de certaines substances alimentaires simplement parce qu'ils vont stimuler la production de sérotonine, dans le fond. Donc, on devient addict à ça.
Et c'est quoi les meilleurs moments, disons, pour mieux... Ben, il faut toujours bien penser à son alimentation, mais il y a des moments où il faut faire particulièrement attention.
Oui.
Puis ces espèces de trésors là, que la nature nous offre, c'est mieux de les prendre quand?
Mais en fait, c'est ça. C'est quand on voit, quand on commence à se connaître beaucoup, on est capable un peu de prévenir les moments où on va vivre des déséquilibres émotionnels et tout. Donc, l'alimentation est toujours là pour nous supporter. Une bonne hydratation, une bonne alimentation. Donc, je dirais les moments où on sait qu'on va être plus stressé, qu'on va être plus anxieux, les situations où on trouve qu'on est plus réactif aussi, ben peut-être que ce serait bien de réévaluer notre alimentation puis notre style de vie à ce moment-là. Peut-être qu'on a perdu un peu l'équilibre, ce qui est tout à fait correct. Hein. Dans la vie, c'est dynamique, c'est évolutif, donc on perd notre équilibre, c'est fait pour ça. Donc, on revient un peu on track, là, je l'ai en anglais, excusez-moi.
Sur la coche.
Et non, mais c'est juste de revenir en piste, de réévaluer notre situation puis de dire, OK, il faudrait vraiment que je mette en place justement une meilleure alimentation pour m'aider à supporter ça au quotidien.
Claudine Larivière, c'est très heureux de vous revoir pour cette deuxième émission.
Merci.
Rappelons que vous êtes nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Absolument.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Alors, Patrice Coco est avec nous en studio. Il nous parlait de sa passion pour le théâtre et 32 ans de métier, quand même, c'est quelque chose. Il faut avoir cette passion, il faut avoir cette envie de toujours se jeter dans des nouveaux rôles. Et j'avais envie de parler de l'art-thérapie, du théâtre.
comme quoi c'est très très important, les gens sont à l'écoute. Je ne sais pas si ça avait été votre cas à vous, vous l'avez appris à l'école, au primaire, au secondaire, est-ce qu'il y avait des cours à ce moment-là?
Non, ça c'est la première fois que j'ai fait du théâtre, c'est en secondaire 5, c'est la première pièce, mais cependant je savais dès l'âge de 8 ans que je voulais faire ce métier. Alors je regardais, pour ceux qui s'en souviennent, la boîte à surprise, le théâtre Alquin et compagnie. Et je savais que je voulais être dans cette boîte-là.
Dans ça. Oui, alors, ça peut être très art-thérapie. Il y a des gens, vous avez parlé du secondaire, c'est très important pour les gens qui ont des enfants et qui nous écoutent. Plusieurs possibilités. Il y a évidemment les villes, hein, ça dépend d'où vous êtes. Il y a s'inscrire dans des cours à la ville, dans les écoles, justement dans le secondaire. Ça a été aussi mon cas au secondaire. Oui. Des cours privés. Mais je vous dirais qu'il y a Fusée-Voix, il y a Tapis Rouge, le Carré Théâtre. C'est très important de voir qui donne les cours. Parce que quand c'est un enseignant praticien, un comédien, ça a plus de valeur que souvent on regarde l'été, la personne a 17 ans, 18 ans, je ne veux pas dire que... Mais c'est important d'enseigner les bonnes bases. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, d'avoir de l'expérience, effectivement, d'être un praticien, parce que quelqu'un qui exerce son métier se renouvelle également. Donc, on sort de la théorie, puis du côté peut-être dogmatique et théorique, pour entrer vraiment dans le vif du sujet de la matière.
Est-ce que ça aide le théâtre à aller plus loin, c'est-à-dire à par-dessus son anxiété? Est-ce que ça a été une bonne thérapie?
Complètement. Moi, j'étais comme beaucoup d'acteurs, très, très timide. Autrefois, je longeais les murs et j'avais peur de tout. Et c'était une façon de sortir de ma coquille, littéralement. Puis aujourd'hui, sur scène, je me sens presque dans mon salon. J'exagère, mais presque.
Donc, ça a été facile comme ça?
Non, ça n'a pas été facile. J'étais très, très timide au départ. Puis ça me demandait beaucoup de courage, justement, d'affronter mes démons, mes peurs. Mais à force de l'exercer, puis j'ai eu la chance de le pratiquer amplement. Donc, j'ai pu me mesurer à ça. C'est aussi d'affronter ses peurs et son ombre, littéralement. C'est de mettre son ombre en lumière.
Alors, il faut avoir des bons maîtres, je le disais, pour ne pas avoir des mauvais plis. Vous avez fait quand même les grandes écoles, je dis quand même, parce que c'est très important. Puis, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui, je veux dire, ils en acceptent que très peu. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui ont envie de faire les grandes écoles, qui n'ont pas été acceptées, mais qui...
Qui peuvent le faire quand même, je pense. C'est sûr que c'est une bonne carte de visite, mais... Si on n'a pas été accepté dans une école puis qu'on a le feu sacré, aussi bien continuer. Il y a d'autres avenues, voilà.
Et c'est quoi les autres avenues si on ne fait pas les grandes écoles?
Être autodidacte, il y a des gens connus, moi, que je nommerai pas, mais qui n'ont pas fait d'école, mais qui ont réussi à faire le métier. Donc,
Alors vous, ça a été tout petit, tout jeune déjà,
dès
l'âge de 8 comédien?
Ans. Oui, absolument.
En regardant quelqu'un?
Oui, je savais intuitivement que c'était mon chemin de vie, ça allait être ça.
Je veux être comédien?
Oui, il n'y avait pas de doute, vraiment pas. Alors j'étais très, très content. Puis évidemment, de pouvoir d'être entré dans une école, oui, mais ensuite, au sortir de l'école, évidemment, il n'y a rien qui nous garantit qu'on va travailler, mais j'ai été engagé rapidement. Et j'ai chômé un an à 32 ans, alors j'ai toujours travaillé, et je suis très proactif aussi, j'attends pas que le téléphone sonne, je propose des projets, alors il faut se mettre en mouvement aussi.
En mouvement. Oui. Quelqu'un qui vous écoute, qui est les parents, ils se disent, mon fils ou ma fille qui a envie d'y aller, c'est quoi votre conseil?
Laissez-les suivre leur passion. Faut pas, dans la vie, avoir une approche rationnelle. Faudrait. Non, c'est pas. C'est qu'est-ce que le cœur et l'intuition dit à la personne. Peu importe la profession, c'est écouter ça et non pas y aller avec le mode rationnel. Ça, c'est un échec ou une frustration qui va se pointer.
Au niveau du travail, on dit que les pianistes, les musiciens, les chanteurs d'opéra travaillent énormément leur gamme.
Oui.
Pour un comédien. Qu'est-ce qu'on travaille?
Les textes. Moi, par exemple, je suis dans les Fourberies du Capin au Théâtre du Nouveau Monde et je savais mon texte plus d'un mois avant la première.
Avant la première lecture? Non,
avant la première représentation.
Donc, est-ce que vous apprenez avant la première lecture votre texte?
Je commençais déjà à le travailler. Oui,
à le mettre en bouche?
Oui, absolument. Puis pour moi, c'est faire ces gammes. C'est, et tous les jours, à chaque représentation, je refais mon texte avec le crayon pour être sûr de me délier la langue.
Horizontale ou bien la verticale?
C'est-à-dire le crayon face au visage et non pas de côté latéral. Et puis, donc ça m'aide beaucoup.
Alors donc, et la mémoire, pour développer la mémoire, les gens qui ont envie de faire ce métier, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des trucs pour développer sa mémoire?
Mon Dieu. Cultiver la mémoire, apprendre des choses. Chacun a son parcours, j'ai pas de recette à ce sujet.
Mais ce que je retiens pour cette chronique art thérapie, c'est que ça vous a aidé beaucoup.
Ah, beaucoup.
À sortir de vous-même.
Complètement.
Et puis aussi de ne pas trop écouter les autres, de faire son chemin, c'est-à-dire de se dire c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Et au niveau des écoles, c'est sûr qu'il faut que ce soit des gens qui soient sérieux, qui donnent les bons plis, la bonne direction aux acteurs et aux actrices.
D'arriver à transmettre, à communiquer, littéralement. Ce n'est pas qu'une affaire rationnelle, c'est vraiment une passion. C'est d'allumer la flamme, d'entretenir le feu, littéralement. Donc, pour qui dit entretenir le feu, c'est ramener sa cheminée aussi. Il y a un entretien. Alors
c'est quoi? C'est la flamme.
L'équilibre, l'équilibre de vie, être sain, cultiver l'espace. Je parlais de neutralité au début. C'est littéralement faire le vide pour faire le plein. Littéralement, si on est trop encombré, il y a plus d'espace, il y a plus de place pour du nouveau.
Est-ce qu'en terminant, il y aurait un rôle en particulier que vous aimeriez jouer?
Oh mon Dieu, c'est fou. Il va en arriver. Oui, complètement. Il va en arriver d'autres. Mais là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit la première mouture de mon spectacle solo qui sera pas. Beaucoup de gens posent la question, est-ce que c'est de l'humour? On va rire, oui, mais ce n'est pas du stand-up, c'est théâtral. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit la première mouture et j'ai très hâte. Ça fait partie de mes objectifs de vie d'être seul en scène, d'expérimenter ça. J'en avais trois objectifs. Écrire un bouquin.
C'est
fait. Sauter en parachute.
Est-ce que c'est fait?
C'est fait.
Ah bon? Oui. C'était quand ça?
L'été dernier.
Oh.
Et ça, c'était pour mettre le clou dans le cercueil de l'anxiété et puis faire un spectacle solo.
Alors, il reste le numéro 3. Merci.
Il faut que tu saches si la vie c'est de naître ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus fécants. S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions. S'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms. Si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson. Sache si la peur est un trésor, si la fuite est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, t'as peau qu'une saison. Tes yeux situent des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irrigue ton cœur si tu le tiens, celui des autres. Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant. Toi qui viendras après moi. Toi qui viendras après moi. Toi il faut que tu saches. Car moi et les miens, on n'a pas su. Ou patient espérant l'inconnu, immobile et confiant. Le courage d'étude près des flancs, aux brises puis aux griffes. De se protéger, de se cacher du froid puis des attaques. Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare? Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi. Toi qui viendras après moi. Toi qui viendras après moi. Et si tu me rejoins dans la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais. Ou si comme moi, étourdi par le monde, par l'ivresse des buts, par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi. si tu sais toujours pas. Crois comme moi qui cherche à croire que l'important c'est de pas le savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi.
C'est drôle parce que je me rappelle, en invitant Patrice Cocro, que Lorraine Pétal disait un jour que les étudiants à l'école, quand ils étaient jeunes, aimaient l'exploration avec les drogues, l'alcool, etc. Et qu'aujourd'hui, le sens de l'acteur, c'est beaucoup plus d'être en santé. C'est drôle parce que Patrice Cocro rime bien avec ça. Est-ce que je me trompe?
Oui, absolument. C'est tout à fait vrai. Le milieu théâtral a changé les habitudes. Oui.
Bon, alors, ça tombe bien parce qu'on a invité notre bon docteur François Baruel, qui est médecin de famille et stomatologue. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Donc, un peu plus tard, vous allez pouvoir poser votre question au docteur, mais pour l'instant, on se pose la question ensemble. Est-ce que l'alcool a un impact sur l'anxiété, positivement ou négativement?
Eh bien, on peut dire les deux. Ah-ha. C'est-à-dire qu'au début, à petite dose, l'alcool diminue l'anxiété. Donc, on appelle ça un anxiolytique. Ça permet de se sentir un peu plus à l'aise dans la foule ou au milieu des gens à qui on n'aurait pas forcément parlé si on n'avait pas bu un petit verre. C'est notamment l'intérêt d'ailleurs du petit verre qu'on boit dans le week-end, la partie pour se réchauffer.
La partie qui réchauffe, c'est les tout débuts. Là.
Voilà. Et au bout d'un petit moment, ça devient anxiogène. C'est-à-dire qu'il augmente l'angoisse. C'est un effet... disons, à double tranchant, et il faut reboire un verre pour retrouver l'état dans lequel on était juste avant. Ce qui fait qu'on boit, on finit par boire verre sur verre pour rester dans cet état d'euphorie, on pourrait dire un petit état d'euphorie. Et en fait, ça devient, à terme, il faut augmenter les doses, et on finit par en avoir besoin réellement. Et quand on tombe dedans, c'est-à-dire quand on devient vraiment un consommateur pour soigner son anxiété de manière régulière... On finit par atteindre un tel niveau d'angoisse qu'on a cette envie impossible à vaincre de boire. Ça s'appelle le craving.
Ouais.
Et cette envie-là, elle nécessite impérieusement d'absorber une dose d'alcool qui va être anxiolytique.
Et ça, c'est pas simple parce qu'on est quand même beaucoup, sans jeu de mots, à table, à aimer recevoir des amis, tout ça. Et donc, boire, contrairement à ce qu'on dit au début d'une soirée, ça a un effet anxiolytique, mais de très courte portée. Le grand danger, au fond, de l'alcool, c'est qu'elle est liée, justement, peut-être à la recherche de l'apaisement, de l'anxiété. Même dans le discours, on le dit, là, boire, ça calme, etc.
Oui, c'est ça. C'est un effet qui paraît bénéfique, mais qui en même temps est quand même très dangereux. À long terme, c'est très dangereux. Donc l'important, c'est qu'il faut se dire que c'est des petites doses. La conclusion, c'est ça. Morale, c'est qu'il faut des petites doses.
Il faut éviter du calcool. C'est ça qui est la morale. Mais j'ajouterais, il y a quand même un effet, vous en avez parlé, si d'un côté il y a l'anxiolytique, de l'autre l'anxiogène, il y a aussi l'effet désinhibiteur. Et ça, expliquez-nous comment ça fonctionne un peu, vous l'avez dit là, d'entrée de jeu, mais
c'est un effet désinhibiteur, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on a les inhibitions, les peurs, les inquiétudes disparaissent, on se trouve mieux, plus à l'aise qu'on ne l'est d'habitude. On se trouve moins timide.
Ouais. Mais ça, on le dit, Patrice Cocro l'a rappelé, le théâtre, c'est très efficace pour ça.
Oui, absolument, tout à fait.
Voilà, il vaut peut-être mieux faire du théâtre, en effet, que boire, ça c'est certain.
Donc voilà, c'est le théâtre qui pourrait être la manière durable de vaincre la timidité. En terminant, je ne veux pas qu'on ait le verre triste, hein, ça serait dommage, hein. C'est très culturel,
c'est vrai,
puis
bien sûr,
moi j'ai souvent de la misère à m'imaginer me défaire mon verre, mais ça serait quoi la prescription? Parce qu'on en entend plusieurs, là, mais... c'est quoi à peu près la quantité qu'on devrait boire?
Alors la quantité varie évidemment en fonction des organismes, mais en gros, on sait qu'un verre d'alcool, c'est-à-dire un verre de bière égale un verre de vin, égale un petit verre d'alcool fort, c'est toujours la même quantité d'alcool en réalité.
Okay.
Hein? On parle, l'OMS parle de 2 à 3 verres d'alcool pour les hommes par jour, maximum.
Ouais, ça c'est un peu genré, permettez-moi d'être critique là. Homme, c'est pour situer la constitution, c'est ça?
C'est ça, c'est une question de poids en fait. Hein.
Okay. Parce qu'une femme pourrait...
Les femmes pourraient en boire moins.
ou pour en boire plus, tout dépendant de leur constitution.
Oui, en général, non, parce que le foie des femmes n'est pas tout à fait le même, ou du moins l'efficacité des foies n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que le foie est plus petit, donc il faut un petit peu plus de...
Vous apprenez quelque chose. Donc, oui. c'est par rapport au foie.
C'est par rapport à la quantité, c'est par rapport à la constitution et à l'efficacité des organes.
OK. Donc, enfin, c'est quelque chose d'intéressant, mais par ailleurs, le cerveau des femmes est en général mieux, alors ça doit compenser.
Oui, c'est ça, elle compense comme ça, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Bon. Mais c'est ça. Il n'y a pas unanimité encore.
Je suis en minorité ici.
Moi, je suis pro-femme, tu le sais. Mais donc, au-delà de ça, docteur, on va revenir dans quelques instants, après cet instant musical, pour la fameuse question, notamment, après avoir fait les conclusions à cette émission avec Patrice Cocquereau, en compagnie, bien sûr, de Sophie Stanquet.
Je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. Derrière les masques où je suis inconnu, parmi les plus connus. Jusqu'au bout de moi, partager son temps entre plusieurs amants, tous différents.
Patrice Cocquereau, merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie, une heure et demie avec nous.
Oui.
Est-ce que vous avez appris beaucoup? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris?
Ça m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie.
Bien.
C'est formidable.
Donc oui. Au niveau alimentaire, au niveau équilibre.
Exactement, tout ça, c'est dans la continuité de ce dans quoi je m'investis.
Très bien. Alors, il y a un projet prochain, un one-man show.
Oui, dans peut-être d'ici un an et demi, quelque chose comme ça.
Et les fourberies de Scapin, il y a des supplémentaires.
Oui, absolument, jusqu'à la mi-février, ensuite en tournée.
Vous riez, vous amusez?
Oui, beaucoup, on a beaucoup de plaisir. C'est une équipe formidable.
Oui. Merci beaucoup.
Merci.
Et donc, on intervient maintenant avec notre docteur, parce que, qu'est-ce que vous voulez, une émission en santé, ça rime toujours avec docteur, Puis, bon, on n'a pas seulement que les docteurs à l'émission, là, on est pluriel dans notre approche de la santé. Mais donc, docteur François Baruel est toujours avec nous. Vient le temps, pour Patrice Cocroe, de vous poser la question qu'il a toujours rêvé poser à son médecin sans jamais avoir osé. Vous entendez Woody Allen en arrière, là, un petit peu?
Oui.
Non, mais on est en compagnie d'un acteur, il faut en profiter. Oui. Donc, cher Patrice, c'est quoi votre question au docteur François Baruel?
Où en est la médecine, je dirais, si je parle d'anxiété, où en est la médecine par rapport à, comment je dirais, pas simplement au niveau des effets, mais au niveau de la source de l'anxiété, par rapport à la nature humaine, je dirais, et non pas nécessairement par rapport à la théorie ou au dogme ou à la science, mais plus au niveau, en termes de conscience ou d'une approche plus globale de l'être humain.
Là, actuellement, la médecine n'a pas n'a pas trouvé encore grand-chose, justement, de ce point de vue-là.
Oui.
Du moins, la médecine, disons, la médecine académique.
Oui.
D'un point de vue, il y a deux choses, et on a trouvé quand même l'origine, mais on a trouvé une cause qu'on peut traiter avec les médicaments actuellement, mm-hmm. qui sont des médicaments qui ont été inventés il y a une trentaine ou une quarantaine d'années.
Mm-hmm. Avant que vous fassiez du théâtre, ouais. Parce qu'on... Mm-hmm.
Et ce sont à peu près toujours les mêmes molécules qui traînent, enfin qui tournent dans le milieu et que les gens prennent hein, pour mm-hmm. se calmer. Et puis il y a aussi tout cet aspect psychologique,
oui.
psychiatrique, mais surtout psychologique et de psychothérapie qui permet quand même de savoir d'où viennent les angoisses profondes. Mm-hmm. Ça, il y en a quand même quelques-unes qu'on mm-hmm. peut répertorier, même dans sa propre personne. On se trouve parfois plusieurs sources oui. d'angoisse. En fait,
oui,
hein.
oui, oui.
Et puis, ce sont des psychologues, des psychothérapies qui permettent de traiter ces choses-là. Mm-hmm. Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est notamment la sophrologie qui permet oui, de bien traiter, oui. De bien trouver, pas trouver forcément la cause, parce que c'est toujours un travail personnel de oui. trouver la cause, mais la sophrologie permet vraiment de bien supporter son angoisse et surtout de la drainer,
oui.
Et puis de l'orienter, de la canaliser.
Mm-hmm. Et parfois de l'annihiler. Il faut préciser, par exemple, ce qu'est la sophrologie, c'est la science du non-verbal. Là,
c'est une science d'une sorte de comportementalisme, en fait. Hein, mm-hmm. Puisqu'en fait, on s'entraîne à avoir des schémas de pensée qui, au moment d'une angoisse, vous évitent de penser à ça. Vous pensez à autre chose. Vous vous concentrez sur quelque mm-hmm. chose de positif au moment de l'angoisse. Mm-hmm. Ce qui permet de passer le cap de l'angoisse et de s'atteler à ce travail qui peut être angoissant ou à cette situation qui est inquiétante. Mm-hmm. Voilà. Donc on évite l'angoisse, on évite le palier de l'angoisse, parce qu'au moment où l'angoisse s'installe, ça devient un cercle vicieux en réalité. Ouais, hein. On a peur de l'angoisse à la fin.
Peur d'avoir peur.
On a peur d'avoir peur. Et ouais. donc c'est ça qu'il faut couper, c'est un cercle vicieux.
Ouais, ouais.
Mais ça demande de l'aide, ça ouais. demande de l'aide des praticiens, des sophrologues, des psychothérapeutes. C'est ça, maintenant, c'est ça le métier qu'il va falloir développer dans le traitement de l'anxiété.
C'est heureux d'entendre un docteur qui ouais. dit que la réponse est humaine, ouais, au fond.
Oui, c'est bien, c'est
mais
très
c'est
bien.
Mais c'est un docteur qui n'est pas traditionnel.
Ouais, je sais. Enfin, il est formidable.
C'est bien, il en faut plusieurs comme vous.
Ouais. C'est ça. Mais ça rime un peu avec ce que vous pensez, Patrice
Cocroe. Oui, tout à fait une approche plus globale et ouais. Intime également de tout ça. Oui.
Bon, rappel d'ailleurs qu'on peut lire ce livre-là où vous partagez beaucoup de votre intimité.
Oui.
Moi, j'étais... J'ai pas pu le lire en entier, là, mais il y a des passages qui m'ont beaucoup touché. C'est très beau.
On veut rappeler, mesdames, messieurs, c'est Guérir à gorge déployée, rappelons qui est sorti oui. en 2014 aux éditions titre. De l'Homme. Oui. Ah oui, c'est très beau, ce oui. titre. Bon.
Eh bien, on se laisse pratiquement là-dessus, mais avant, il faut vous remercier, oui, Patrice oui. Cocroe. D'avoir été là, de vous être prêté au jeu. Ce mélange merci de théâtre et de santé vous va bien, je pense?
Oui, oui tout à fait.
Okay. Donc, continuez de réécouter l'émission sur canalm.vusezvoix.com ou si vous l'attrapez sur le câble, vous pourrez nous entendre de nouveau ou d'autres moments de cette émission. Alors, vous remercie aussi plein de gens de l'équipe.
On a une très belle équipe à remercier. Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagne aux communications, Catherine Bourderon à la recherche.
Et aussi des chroniqueuses. Je pense ici à Claudine Larivière, nutritionniste, notre docteur François Baruel, médecin de famille et stomatologue, Mali Pradichit, naturopathe. Sans oublier Marc-Boris Saint-Maurice, le fondateur du Club Compassion. Évidemment, l'équipe a été remerciée. Il ne nous reste plus qu'à dire qu'on se le dise, rire à gorge déployée ou s'amuser, c'est bon contre l'anxiété. Oh, on était rendu là! OK, mais c'est Benoît Racette qui vous le dit.
Et Sophie Stanquet.
C'est bon pour la santé!